Autour de la Méditerranée, et même beaucoup plus loin, il paraît qu'il est arrivé en Chine, c'est un peu loin de la Méditerranée. Bon voilà, ce personnage-là, suivant qu'il a un passeport, il va s'appeler Jufa. Si là qu'il a un autre passeport, il va s'appeler Shra. Suivant qu'il a un autre passeport, il va s'appeler Nasreddin. Mais c'est le même personnage. Messieurs, dames, c'est celui qu'on dit que c'est le plus fou, c'est le plus sage, c'est le seul menteur qui ne dise que la vérité.
Ouais. Disons que le tchitchasson est une des actions culturelles que la municipalité veut mettre en place, mais ce n'est pas la seule, loin de là. Nous avons un maire qui est très prolifique en idées, qui a beaucoup de désir, d'envie. Et donc une de ses envies, c'était de faire une exposition permanente dans le village, dans les rues du village, avec une exposition de panneaux, des reproductions de photos et surtout de lettres, donc cette correspondance d'un poilu du village pendant la guerre de 14-18, puisque nous sommes dans la commémoration de cette guerre. Et il y en aura d'autres, il y aura des expositions permanentes aussi dans le petit chalet qui est à la place du Plot, au centre du village. On invite d'ailleurs, nous sommes ouverts à des créateurs qui veulent s'exprimer dans le village. Voilà. Il y a d'autres projets. Il va y avoir une projection, une soirée anglaise, parce que nous avons aussi des habitants qui sont anglophones, anglais, américains. Donc on va faire aussi une soirée avec eux, qui sont demandeurs, et d'autres. Bon, l'expérience avec les sculptures dans le sort a donné aussi beaucoup d'envie, donc peut-être qu'on va remettre ça en nocturne, par exemple, avec des éclairages. Enfin, il y a beaucoup d'idées qui vont venir.
Alors mon nom, c'est Alain Malignon. MALUIGENOEN.
Ok, t'es maire du coup de Durfort ?
Tout à fait, depuis 3 mois.
Ok, et alors l'événement d'aujourd'hui, comment à chaud là,
Alors là, je trouve ça excellent. D'abord, parce que la population a participé à tout ce qui était installation, du stand, nourriture. Et toutes les associations, le but en même temps de faire vivre du monde du côté culturel, c'était aussi de fédérer donc tous les Durfortoises et Durfortois à cet événement. Donc je pense que ça les a surpris quand même, vu le thème, c'est la première fois qu'il se faisait un événement de ce type. Mais à la fin de la journée, on peut dire que les gens étaient très contents, vu en particulier les Kadavaski.
Ouais, voilà. C'est excellent. Ouais.
Ça a beaucoup plu. Bon, après on verra les autres jours ce qu'ils vont dire, hein. Mais sinon je pense que c'était une belle journée. Merveilleuse, comme diraient certaines personnes. Et donc ce sera offert l'an prochain.
Ok. Voilà. Mais du coup, il y a eu un mélange en fait entre le, on peut dire, traditionnel, parce que Durfort, c'est le cuivre.
Le cuivre, c'est tout ce qui est industrie, on va dire. Et là, il y a une, c'était beaucoup plus sur la parole et non plus un petit peu de son, alors qu'à Durfort, c'était beaucoup de bruit. Parce qu'à l'époque, il y avait les chaudronniers donc qui utilisaient donc des marteaux donc pour étamer ou fabriquer un chaudron, les martineurs. Et donc là, c'était aujourd'hui là. Place à la parole. Oui, l'autre idée de cette manifestation, c'était de montrer que Durfort avait un nouveau visage et en particulier donner une image de, on va dire, de gagneur, de booster, et donc une nouvelle page était en train de s'ouvrir. Toutes les associations soit ont participé physiquement et ou financièrement.
Okay.
Donc pour que cette journée se passe la mieux possible.
Et du coup, comment s'est fait la préparation? Vous avez contacté?
Alors la
peu,
préparation, donc c'est en particulier un conseiller municipal qui s'appelle Louis Pi, qui lui contrée Martison, et c'est eux deux qui ont décidé de mettre sur pied donc le programme et la journée. Et normalement, donc l'idée, on va dire, c'est que chaque année à cette période-ci, il est toujours un tchatchasson. En même temps, donc, à cette journée-là, le but est aussi d'informer donc, les touristes qui venaient qu'il y avait de nouveaux magasins qui s'ouvraient, et en particulier et de nouveaux artisans, créateurs, qui allaient venir tous les week-ends du mois de juillet et août pour présenter leur travail et donc donner aussi un nouvel élan donc, au village.
Ok, ça reste toujours sur l'esprit de... Du cuivre?
Du tout, du tout. C'était là, c'est plutôt, où, on va dire, ouvert à des créateurs qui font du, ou artisans, qui font du travail de qualité et assez original. Parce que c'est vrai que parfois, on regarde tous les villages touristiques, on trouve souvent les mêmes articles quoi, à vendre. Donc, tandis que là, donc, on essaye de faire appel à des gens donc, qui font un travail nouveau ou hors des circuits classiques.
Ok, vous êtes plutôt diversifié du coup.
Voilà, donc bon, on va bien voir. Hein. Donc l'intérêt c'est que justement le bouche à oreille fonctionne bien et qu'on dise donc, maintenant, des fois il y a en dehors donc, des créateurs et des artisans actuels, qu'il y en a d'autres qui vont venir cet été donc, pour dynamiser donc, l'attrait touristique.
Ok, et là on est face à, donc, à la rivière avec des sculptures donc, de Guillaume. Et parce qu'il. Les questions un peu, de, par exemple, de laisser des œuvres d'art un peu...
Alors, je pense qu'on va le laisser quelques jours, mais normalement, il est demandé à Guillaume de faire une statue, donc avec des objets récupérés dans le village, et qui, donc, il est prévu qu'il la fasse, je crois, avant la fin du mois d'août. Et donc, c'est lui, donc, la matière première sera donc durfortoise, et l'idée sera guillaumoise. Donc, normalement, il est prévu aussi donc, de remettre sur pied donc, un martinet qui était l'outil principal, enfin, ou la bâtisse principale donc, du village, où les gens, donc, à partir duquel ils fabriquaient donc, les objets en cuivre. Donc, voilà. Okay. Donc normalement, on va essayer avant la fin de l'année de monter un projet dans ce sens. C'est-à-dire en particulier donc donner vie à un martinet qui est un des derniers martinets à cuivre d'Europe. Et donc qui est dont le dernier martineur, encore vivant, est d'accord pour le remettre sur pied.
Ah, c'est super voilà. Ça. Et il est d'ici du coup
ou... Oui, il habite dans la rue des Martineurs. Non approprié. Voilà.
Durfort rêveur, je suis un ninja, je suis un robot. Putain, quand la fermeture éclair de ma braguette a pété, tant pis, je continue quand même. Il y aura toujours des cons qui comprennent à l'envers. Une chèvre sucrée et chapeautée. L'horizon dépasse, en passant un vélo à Durfort, j'ai croisé des morts vagabonds. Lâche-toi mes couilles, le temps se brouille, dur, 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 fort, dur, mou. Un dimanche particulier, dans le jour qui bruit, qui fuit, qui fuit, nous sommes sublimes, quoi qu'il arrive, et nous sommes immortels jusqu'à preuve du contraire. Alors, je me suis réveillé, toute mouillée. Barbe bleue, même le cul, ivre d'Élodie, avec ce bidule machin de la lumière tassant les rochers et belle initiative, à renouveler, que Durfort vive encore longtemps, un coup d'essai, et ce prochain, prochain, pourquoi la cigogne est bleue? Parce que le monde n'a aucun sens. Merci, merci, merci. Pour le sortir.
Zingo Zang. Et nous sommes un groupe de musique traditionnelle occitane et notre registre d'intervention, ça peut être à la fois, comme vous l'avez vu, en déambulation, ça peut être également en formule orchestre pour faire un bal occitan ou en formule éventuellement concert, voilà, pour réaliser des soirées où il y a que l'écoute qui prime quoi, sur le répertoire que nous jouons. C'est un répertoire qui est issu à la fois du répertoire dansant et donc du répertoire qui peut être aussi bien écouté, formule concert. C'est essentiellement des œuvres de la musique et la culture occitane.
Okay.
Voilà. Alors paradoxalement, dans notre répertoire, il y a des thèmes et des morceaux qu'on appelle des scottish. Les scottish, ça n'a pas connotation tellement occitane. C'est plutôt un terme dérivé de l'Écosse. Voilà, mais qui a été intégré dans les musiques anciennes que dansaient nos aïeux, dans les bals de l'époque, mais qui a été intégré dans les musiques traditionnelles. Voilà. Mais après, on a tout le répertoire. De la même manière, la mazurka. La mazurka, qui est une... Et les polkas aussi, qui sont des airs qui sont rentrés dans le répertoire traditionnel. Alors qu'elles ont une connotation, bon, à la fois qui viennent ou de Hongrie ou de Pologne. Voilà.
Qui a donné le zouk, d'ailleurs, la polka.
Tout à fait, tout à fait. Après, il y a des évolutions de ces airs, de ces... Voilà. Et voilà quel est notre... nos airs de référence.
Pour ces danses importées, on pense que c'est à l'époque des conquêtes napoléoniennes.
Alors mon instrument, il s'appelle, donc c'est une cornemuse. Hein. C'est une cornemuse traditionnelle de la montagne noire. Donc on l'appelait côté tarné, on l'appelait la crabe, la chèvre. Et côté au doigt, on l'appelait la boudègue. Alors comme toutes les cornemuses, il est... la boudègue est composée donc d'une réserve d'air qu'on remplit d'air. Et cette réserve d'air alimente un hautbois mélodique qui me permet de faire la mélodie, et un bourdon qui est accordé deux octaves plus bas que le hautbois. Donc le bourdon, lui, fait une note continue. Donc ici, c'est le fa. Et donc ce fa-là est deux octaves plus bas que le fa de mon hautbois.
D'accord. Et il existe d'autres notes, du coup sur, c'est toujours
alors,
fa.
Le bourdon fait qu'un fa. Lui, il ne peut faire qu'un fa. Et donc, on joue des mélodies qui sont accordées par rapport au bourdon. Après, il y a d'autres cornemuses qui sont sur des tonalités différentes. Hein. Ouais. Cornemuses écossaises, mais bon, il y en a d'autres. Hein.
C'est un instrument pseudo-traditionnel puisqu'il s'agit d'une percussion, mais qui est la version plutôt moderne, puisque le corps de la percussion est en métal et en fibre de carbone, parce que ce sont des percussions qui sont utilisées pour l'essentiel maintenant au travers des groupes qu'on appelle bandas ou groupes de musique de rue. C'est plus allégé que ne l'était avant le tambour traditionnel, etc. Et les peaux aussi, il faut l'admettre, ne sont plus avec un caractère traditionnel comme elles l'étaient avant, parce que c'était des peaux d'animaux. Et là, maintenant, c'est des peaux en plastique synthétique. Synthétique, donc, plus résistante, plus... disons, avec une sonorité plus intéressante. Parce qu'il y a davantage de timbre, davantage de force. Voilà. Et l'avantage entre le synthétique et le naturel, c'était qu'avant, selon que le temps était chaud ou le temps était froid ou humide, il y avait une variation sur la tension de la peau et qui faisait qu'il y avait effectivement des variations sur la tonalité de l'instrument.
Il y a une fille qui est avec vous qui a un peu chanté à un moment donné, donc oui. Vous utilisez aussi la tradition orale.
Tout à fait. Et là, ce sont des airs. D'ailleurs, elle arrive. Elle va peut-être pouvoir se joindre à nous et vous
présenter son instrument.
Plus ample d'explications et vous présenter l'instrument qui est un graille ou un hautbois. Voilà, c'est la famille des hautbois. Voilà. Donc il s'agit de Marine.
Non, le graille, c'est le hautbois traditionnel du haut Languedoc, le graille. C'est un instrument qui est fait en buis. Le mien, l'original du mien, a été trouvé à Vabre. Et à Vabre, tu sais, dans le monde de la Cône, là, il y a plein de buis qui poussent autour de Vabre. Et pour qu'un buis soit suffisamment grand pour en faire un graille, il a 200 à 300 ans.
Ah oui.
Il est fait en buis, il y a des cornes, il est très élaboré, il est joli à voir, il est très spécifique par rapport aux autres hautbois qui ont été trouvés dans le sud de la France. Il a beaucoup de cornes, il est très travaillé, il est très ornementé. Mmh. Par exemple, le hautbois qui a été trouvé dans la Balanguedoc ressemble beaucoup à un hautbois baroque. Il a le renflement en haut comme un hautbois baroque, mais il a beaucoup moins de cornes. Notre hautbois ressemble plus à un hautbois renaissance. Il a aussi la perce large, le son très sonore de nos bois de renaissance. Ça, tu l'as entendu tout à l'heure. Mon instrument, c'est un temps à 6 km. Donc moi, je joue dehors. Et quand je donne des cours de grail, les autres profs me demandent gentiment de le faire quand ils ne sont pas là. C'est un instrument très sonore, donc ça date certainement de la renaissance. C'est un instrument qui se jouait jusqu'en 1900. Après la Première Guerre mondiale, les graillères, il y a beaucoup de graillères qui ne sont pas revenus de la guerre. L'accordéon est venu de l'Italie. Avec un accordéon, on peut faire plus de notes qu'avec une graille. Et l'accordéon est devenu à la mode et le graille a perdu un petit peu. Donc ça ne se jouait pratiquement plus après 1918. Donc on essaye de faire revivre cet instrument. Donc j'essaye de le faire revivre. Ce qui m'a fait énormément plaisir aujourd'hui, il y avait un petit qui était tombé amoureux du grail et il n'habite pas loin de chez moi. Donc certainement que je vais lui donner le cours de grail.
Ouais, super,
donc petit à petit, j'interviens aussi dans les classes et il y a des enfants qui adorent cet instrument. Donc petit à petit, je vais essayer de le faire revivre.
Okay. Et toi, comment tu es arrivé du coup à travailler cet instrument?
J'avais joué le hautbois classique. Et quand je suis venue en France, j'ai dû trouver quand même quelque chose pour faire la musique. Donc je suis née à Amsterdam, je chantais dans le choral et du concertgebouw. L'orchestre royal du concertgebouw. Et donc il me fallait quand même quelque chose pour faire la musique. Et je chantais dans une petite chorale. Et un jour, je suis allée répéter, il n'y avait pas ma petite chorale, il y avait une bande de graille. Et ça m'intéressait parce que comme j'ai joué l'hautbois classique, l'hautbois traditionnel, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas que ça existait, donc ça m'a intriguée, ça m'a plu. Pendant quelques années, j'ai pris des cours à Castres. Ensuite, ça ne suffisait plus. Je suis allée à Sète, où il y a Alain Charrier. C'est un très bon hautbouiste traditionnel à Sète. J'ai pris des cours là-bas et ensuite, quand le département de musique traditionnelle s'est monté à Toulouse, j'étais avec la première foulée là. Et voilà.
Okay.
C'est quand même un instrument qui me plaît beaucoup, c'est un hautbois.
Okay. Et au niveau du coup du chant, alors tu chantais déjà aussi
Classique. Ouais.
Tu faisais du classique, hein?
Ça ne s'entend pas parce que là, je suis allergique au platane, il y en a plein. Je chantais classique. Donc j'ai dû faire un énorme effort pour devenir moins classique, pour que ça sonne un petit peu plus traditionnel. Encore, apparemment, ce n'est pas très, très, très traditionnel, mais en général, le public aime beaucoup quand je chante. Donc j'ai fait une formation, j'ai fait cette année une formation en occitan, comme je chante en occitan, je me suis dit ça serait quand même bien de savoir le parler. Donc j'ai fait une formation en occitan, et là la formatrice en occitan, elle a dit mais c'est très bien, tu vas immédiatement apprendre l'occitan aux autres dans le cadre du périscolaire. Je interviens donc dans les classes en culture occitane, et quelques mots, des comptines, des chants. Je remontre bien sûr mes 5 hautbois parce que j'en ai 5. Donc si j'interviens, mettons, 6 semaines, je peux montrer chaque semaine un hautbois. Si j'interviens plus de semaines, je peux montrer toutes les 2 semaines un hautbois différent. Ça plaît aux enfants. Et je leur fais aussi des petits instruments en roseau. Voilà.
Moi je m'appelle Bernard.
Bernard, et du coup tu joues de l'accordéon.
Accordéon diatonique.
Diatonique, ouais, j'allais te poser la question. Il y a,
C'est un petit accordéon, elle a parlé de la guerre de 14 tout à l'heure, qui est sorti à cette époque-là. C'est un accordéon simplifié, il n'y a pas toutes les notes, mais il est léger. Et en fait il a remplacé, elle l'a dit, là, beaucoup d'instruments traditionnels, parce que juste... facile à jouer, pas trop cher, fiable. Et les gens, ils pouvaient surtout jouer tout seuls. Ils faisaient la rythmique et la mélodie. Comme à l'époque, ils jouaient tout seuls. Et donc, c'était un gros avantage. Et donc, c'est dommage, mais bon, il a balayé vraiment tous les vieux instruments qu'il y avait. voilà, il a tout nettoyé, quoi. Mmh. Après, il ne restait plus grand-chose.
L'après-guerre, quoi, ça, le carnage.
Ouais, ça se situe entre 14, aux alentours de la guerre de 14, un peu avant, et puis beaucoup après. Okay. Mais vraiment, il a nettoyé tous les vieux instruments, les vielles, les grailles, les cornemuses, tout ça, ça a disparu à cause de la guerre.
Ok.
J'assume. Ouais. Et donc là, nous, dans notre groupe, moi j'ai le rôle, en fait, de... Le grain ne peut pas jouer tout le temps, mais il faut qu'il respire. Parce que je ne sais pas si tu vois, elle est toute rouge, machin, c'est très pénible. La cornemuse peut jouer tout le temps. Mais si jamais le grain s'arrête et que la cornemuse, pour une raison ou une autre, ne redémarre pas, je suis là pour sauver les meubles et donc faire que les danseurs, le tambour évidemment, que les danseurs, puisqu'on fait beaucoup de balles en fait, hein, on fait l'animation de rue comme ça, mais on fait beaucoup de balles, que les danseurs ne passent pas le pied en l'air et se cassent la figure. Voilà, c'est mon rôle.
Et du coup, c'est vraiment dans la tradition de...
Ouais, c'est un choix qu'on a fait d'être, enfin on dit route, hein, fait de racine quoi, en anglais, un bon occitan, route. Et voilà, donc c'est un choix qu'on a fait d'être le plus proche possible, parce qu'on ne sait pas, hein, pas de... Ces instruments, on les a récupérés du fond des âges. Il y a quelques musiques, des partitions, tout ça, mais on ne sait pas comment ils jouaient les gens autrefois. Et d'être le plus proche possible de l'idée que ce qu'on fait de la tradition. On joue des morceaux du Tarn, le compositeur tarné, enfin, je veux dire, c'est un peu l'idée qu'on se fait des racines. Sinon, on ne le fait pas, personne ne le fera.
Non, mais il faut le faire. Hein.
C'est notre gloriole, entre guillemets, pour faire. On est fiers de ça.
Ouais, très bien. Et du coup, pareil, vous travaillez un peu sur les danses parce que...
Alors, on est un groupe de bal au départ, donc on fait danser les gens. Et un bal traditionnel, ça commence à 9h et ça finit quand ça finit.